C'était il y a 25 ans exactement et je prenais l'avion depuis Roissy pour un road trip dans l'Ouest américain avec mon amie Sylvie. Juste avant de monter dans l'aéronef, j'achetais un livre de poche attiré par le titre « Une saison chez Lacan » de Pierre Rey. Ce n'est que le lendemain que j'ouvrais le bouquin alors que je m'étais allongé sur Venice Beach, tout près de Los Angeles. Et voilà que, pour mon plus grand émerveillement, le récit commençait par cette phrase. Il existe, non loin de Los Angeles, une plage de sable gris où viennent s'écraser les rouleaux du Pacifique. L'endroit s'appelle Venice. Les livres sont des miracles permanents. Vous connaissez ma voix sur le foot dans l'after, sur l'actualité chez Estelle Midi. Désormais, cette voix sert aussi, toutes les deux semaines, à partager l'amour des livres. Bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode du podcast littéraire de RMC. Des livres RMC ? C'est parti ! Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports. Il voyageait en perpénard sur la grand-mare des canards et s'appelait Les Copains d'abord. Tout le monde connaît le plus grand succès de Georges Brassens. Les Copains d'abord, c'est aussi le nom du bar où se retrouvent les quatre protagonistes du roman Le Dernier Verre que vient de publier Bernard Lyons aux éditions En Exergue. Bonjour Bernard Lyons.
Bonjour mon copain Fred.
Vous êtes un célèbre journaliste sportif, un grand spécialiste de l'AS Saint-Etienne et auteur de nombreux livres sur le football. Mais là, c'est en tant que primo-romancier que vous venez nous voir. Alors, avant d'entrer ensemble dans votre roman, cette question. Comment s'est passé le saut entre l'écriture de livres de non-fiction vraiment très spécialisés sur le foot et la vraie grande fiction où l'on ne parle quasiment pas de foot ?
Ben, c'est un saut qui m'a pris une vingtaine d'années. C'est quelque chose que je ressentais au plus profond de moi-même. J'avais envie d'écrire un roman, de faire un voyage intérieur, parce que écrire un roman, c'est une formidable aventure humaine et personnelle. De faire un petit pas de côté, c'est une mise en danger aussi, parce que j'ai déjà publié 10 livres sur le football.
Qui ont bien marché en plus, c'est certain.
9 ont très bien marché. Ouais. Bon, il y a toujours un peu du déchet, mais 9 sur 10 ont très bien marché. Et j'avais ça dans la tête. Et puis, j'ai eu le bonheur et le plaisir de pouvoir enfin publier mon premier roman. D'où un stress incroyable, parce que c'est une mise à nu, vous savez, écrire un premier roman. Alors, on dit qu'il y a toujours une part d'autobiographie, de vécu, ce qui est vrai, mais ça reste quand même un roman et un formidable voyage personnel, une formidable aventure.
Et puis, on vous attend au tournant, bien entendu, parce que vous êtes reconnu dans le foot. Donc, automatiquement, on change de milieu, en fait, dès qu'on écrit un roman. Donc, on est plus ouvert à la critique, en fait. Hein.
Oui, on rentre un peu dans le monde de l'entre-soi. Je me rappelle quand j'avais publié l'autobiographie de Jean-François Larios, quelques auteurs littéraires très connus que je ne citerai pas avaient dit « mais le problème c'est que c'est écrit par un journaliste sportif ». Donc il y a ce préjugé quand même qui te colle à la peau, cette étiquette dont il faut arriver à arracher, ça c'est extrêmement compliqué.
Il a fallu dépasser votre peur en fait, et la peur de la critique et du regard des autres.
Oui, mais je ne l'ai pas fait pour la reconnaissance ou une envie de postérité ou de léguer quelque chose, je l'ai fait vraiment pour moi. Pour avoir ce voyage intérieur, parce que vous le savez, Fred, écrire un livre, c'est une formidable aventure personnelle. Ça vous amène dans des contrées de l'imaginaire auxquelles on ne s'attendait pas du tout.
Et on est tout seul face à soi-même.
On est tout seul face à soi-même. J'écris beaucoup la nuit et c'était un voyage au bout de la solitude et tout au bout de mon envie.
Alors, plantons le décor. Quatre amis se retrouvent tous les vendredis soirs dans un bar un peu miteux de la banlieue parisienne. J'ai bien résumé ?
Oui, tout à fait.
C'est comme histoire, en fait, ça fait un peu bizarre, en fait, comme départ. Pas très palpitant quand dit comme ça.
Si, mais comme premier roman, il aurait fallu que je prenne quelque chose d'un peu plus soft, vous avez raison, d'un peu plus léger. Et c'est un livre qui est assez dur, qui est assez noir sur la détresse humaine, sur la détresse des hommes qui, à cadence régulière, viennent partout en France s'échouer au bord d'un comptoir pour essayer de trouver un semblant de lien social, rompre un petit peu avec leur solitude et éviter de se noyer tout seul dans l'alcool et souvent en toile de fond, cette détresse sociale, affective, c'est un manque d'amour et c'est un manque d'amour avec les femmes.
Alors, vous l'avez dit, ça picole pas mal dans ce livre, beaucoup.
Comme en France.
Comme en France, oui, voilà, c'est un livre très franc. Alors ça veut dire, franchement, hein, ça sent la France, hein, mais je dirais même que ça pue la France, hein, des fois, hein, dans ce livre. Parce que c'est tellement bien décrit, en fait, que ce bar un peu pourri, là, on sent les effluves, on sent les odeurs qu'on a dans les vieux bars. Mais est-ce un livre sur l'alcoolisme et ses méfaits, ou c'est quand même quelque chose d'un peu différent ?
Non, pas du tout. C'est un livre sur la détresse humaine, sur l'errance de gens. On n'a jamais été autant connectés aujourd'hui les uns aux autres, et on n'a jamais été autant déconnectés à la fois d'un point de vue sentimental, social, les uns aux autres. Et le bar, souvent dans les villes de province, dans les villages, c'est le lien social qui existe encore, ou alors vous réfugiez devant la solitude de votre poste de télévision, et souvent sont des gens qui ont des parcours de vie cabossés. Et ce qui est assez peut-être surprenant dans mon roman, c'est que ces gens qui sont cabossés ont une vingtaine d'années et appartiennent à une génération qui est déjà désenchantée.
Oui, alors c'est ça qui est très dur, c'est que on va rentrer dans chacun des personnages au long de cette rencontre dans notre podcast, mais ouais, ils sont jeunes en fait, et moi c'est ce qui m'a fait beaucoup de mal finalement en lisant, c'est qu'ils sont déjà désespérés alors qu'ils sont dans la pleine force de l'âge au moment où on rêve en fait, mais déjà ils ne rêvent plus. Vous avez l'impression qu'il y a une génération aujourd'hui en France qui ne rêve plus ?
On se pose toujours souvent la question de savoir que devient le rêveur quand il ne rêve plus. C'est un peu la problématique de ce livre. J'ai commencé à l'écrire il y a une vingtaine d'années. J'avais choisi de marc-bouter sur l'alcoolisme, ce qui est une espèce de drogue douce qui permet un peu de s'évader. Mais aujourd'hui, j'aurais pu prendre la thématique de la drogue, qui est beaucoup plus prégnante et présente qu'il y a une vingtaine d'années. Quand Fred, nous étions jeunes, il y avait beaucoup moins de drogue qui circulait dans les rues, les boîtes de nuit. C'était surtout de l'alcool festif. Et malheureusement, c'est une génération qui est désenchantée, et c'est un déchantement qui perdure et qui touche de plus en plus les gens dans leur adolescence. Manque de repères, manque de liens sociaux, je l'ai dit, et manque de vision et d'ambition sur la vie. Parce que la vie, je le répète, c'est une formidable aventure, mais vivre cette aventure sans la partager, c'est une source de désespoir.
Alors, je veux dire que votre livre est bien écrit, les histoires de chacun sont vraiment bien racontées, mais ce qui m'a le plus plu dans votre roman, Bernard Lyons, c'est la construction des différents personnages. Vraiment, c'est pour moi, réside toute la puissance, c'est là que réside toute la puissance et la crédibilité du livre, en fait. Ces personnages sont très fouillés, sont très réfléchis, très bien construits, très crédibles, en fait.
Oui, ils sont crédibles, d'autant plus crédibles qu'ils sortent de mon imaginaire, à part un, c'est Thierry. Je me suis inspiré je suis parti d'ailleurs, la structure du roman part de Thierry, qui n'est pas le personnage central, mais un des personnages centraux.
Qui est le métis, hein, Thierry.
Oui, qui est le métis, comme je le qualifie, de fils de pub, qui dévore la vie, qui dévore...
Qui sort beaucoup.
Qui sort beaucoup, qui dévore les femmes, qui dévore la nuit parisienne. Et c'est en fait quelqu'un que j'ai bien connu, avec lequel j'ai débuté ma carrière.
Oui, parce qu'il est dédié à Thierry. Oui,
à Thierry Rogelin. Et je ne comprenais pas cette soif de vivre qui se transformait en fuite en avant, dans les excès, dans l'alcool, dans les femmes, dans les boîtes de nuit, dans les drogues dures. Et j'ai compris quelques années plus tard, quand il a été frappé d'une leucémie foudroyante, et il est décédé, il n'avait même pas 35 ans, et je me suis dit, tiens, instinctivement, au plus profond de lui-même, il sentait qu'il n'allait pas vivre longtemps, et que donc il a profité, mangé et brûlé la vie. Et c'est pour ça que je lui ai dédié ce livre. Je me suis servi de ce personnage-là, même si son histoire dans le roman est totalement romancée, puisque, je vous rassure, il n'est pas atteint d'une leucémie, c'est encore plus grave.
À Thierry et à tous les poivreaux de la terre. C'est votre dédicace dans le livre.
Oui, parce que j'ai connu beaucoup de gens. Vous savez, on parle souvent de personnes, de piliers de bar, de gens insignifiants. Et pourtant, on oublie que chacun d'entre eux possède son histoire secrète, ses fêlures intérieures et sa part d'humanité. Et tous ces gens-là, c'est un peu ces naufragés de l'amour, comme je les appelle, font partie de cette humanité. Ils font tellement partie du décor dans un bistrot. Vous en avez croisé sans doute, Fred,
oui, bien sûr, oui.
Des gens qui sont toujours assis ou accoudés au comptoir à la même
heure. Le journal, et ils sont là avec leur Ricard.
Et on a l'impression qu'ils font partie du décor, ils font partie des meubles, comme on dit, et qu'ils n'ont pas d'histoire et qu'ils sont insignifiants, alors que c'est tout le contraire.
Alors, en fait, il y a le portrait de plusieurs personnages. Donc, il y a le patron du bar et les quatre potes. C'est une galerie de portraits très cinématographique, je trouve, un peu comme ces films à sketch italiens des années 60, puisque vous racontez l'histoire de chacun de ces personnages avec le fil conducteur qui sont les retrouvailles du vendredi soir dans son bar. Donc, pour on se retrouve pour pas être seul, en fait. C'est vraiment
oui,
c'est ce qu'on ressent le plus fort dans ce livre.
Et il y a cette notion, bien entendu, de déchantement, mais aussi d'espoir, parce qu'ils se retrouvent tous les vendredis soirs à s'échouer contre le troquet, contre le bar de Gégé.
Les copains d'abord ?
Ouais, les copains d'abord, le bistrotier breton. Mais chacun à sa façon, à titre individuel, en solo, en duo, en trio, ils vont essayer quand même de donner un sens à leur vie, parce qu'on a tous un instinct de survie en nous, et ça va être des échecs retentissants. Mais finalement, ça finit pas forcément mal pour ceux auxquels on s'attend, et pas forcément bien pour ceux auxquels on pensait.
Alors je vous propose de nous présenter chacun de ces personnages. Vous avez présenté Thierry, mais il y en a d'autres. Commençons par celui qui apparaît en filigrane tout au long du livre, qui n'est pas le plus important des personnages, mais qui est le dénominateur commun. C'est Gégé, c'est le patron du bistrot.
Oui, c'est Gégé qui est...
Il est tout seul, lui aussi. Sa femme s'est barrée avec un camionneur, non c'est
Oui,
quoi
avec un chauffeur routier.
Un
camionneur. Et il se retrouve, lui, échoué. Mais alors, de l'autre côté du comptoir, il est plus âgé, bien entendu, que la bande des quatre, qui est solide comme un vieux chêne à deux branches. Et c'est un petit peu le papa protecteur de ces jeunes-là, de cette adolescence un peu déjà brisée. Et finalement, même pour lui, il va être rattrapé par la cruauté du destin, qu'il a frappé une première fois quand sa femme l'a quitté pour un chauffeur routier. Et puis, alors je ne vais pas dévoiler la trame du roman. Mais
non, parce qu'il se passe plein de trucs avec
ouais,
ça.
Il va être frappé par une seconde fois par le destin, qui va finir par l'emporter. Donc, tout ça pour dire que vous soyez du bon ou du mauvais côté du comptoir, la vie, malheureusement, vous rattrape toujours.
On va écouter quelques lignes de votre livre. C'est le moment de la lecture. Alors, comme à chaque épisode, j'ai choisi pour l'invité, donc pour vous, Bernard Lyon, c'est un extrait de votre roman. Pouvez-vous nous lire, par exemple, la page 149 ?
Picasso peint sur la toile. Débarrassé de son double maléfique, Sébastien revit Marco, Paul, Thierry, comme si de rien n'était. Il n'avait pas bougé dans Iota depuis la dernière fois. Si Sébastien avait cédé à la tentation de ne plus les fréquenter, c'était juste pour se convaincre qu'il valait mieux qu'eux. Qu'à son âge, il ne voulait plus perdre son temps dans ses soirées à ne rien glander, si ce n'est à picoler. Il n'en avait finalement pas été capable, pas plus capable que ses potes. Son retour au bistrot, c'est là officiellement l'échec de sa tentative de devenir un autre.
Je trouve que Céline résume parfaitement l'ambiance de votre roman. Et là, on retrouve vraiment le désespoir et le fait que finalement, c'est dur de s'échapper du groupe,
c'est dur
de s'échapper de l'alcool. C'est dur de s'échapper
de sa condition.
De sa condition et de retrouver sa solitude, en fait.
Ouais, de sa condition, même si, je le répète, chacun, à tour de rôle, va essayer
de s'en sortir.
De s'en sortir, ouais. de donner un sens à sa vie. Et puis finalement, les liens familiaux, ce lien tribal qui les relie les uns aux autres depuis leur plus tendre enfance, c'est finalement le socle qui les met.
Oui, parce que c'est des copains de lycée. Hein.
Oui, c'est des copains de collège et de lycée.
De collège et de lycée. Voilà,
ouais, les uns et les autres se sont protégés mutuellement, se sont serrés les coudes et finalement, ils se rendent compte que le seul lien un petit peu qui les unit, c'est le seul pilier de leur vie qui peut les réconforter tout en se détruisant, c'est leur amitié, mais qui va être soumise à rude épreuve quand même.
Alors rapidement, on va passer en revue les différents personnages. On a parlé de Gégé, on a parlé de Thierry, Paul. Moi, c'est peut-être mon personnage préféré parce que c'est dans le personnage dans lequel je me reconnais le plus facilement, en fait. Parce que chacun, ce qu'il y a de bien, c'est que la galerie de portraits est tellement bien faite avec des gens qui sont unis par l'alcool, par l'amitié, mais qui sont très différents chacun. Et donc, moi, je me suis plutôt reconnu dans Paul. Qui est Paul ?
Oui, alors, c'est la diversité qui fait la richesse d'une société. C'est pour ça que j'ai pas voulu prendre des personnages linéaires, mais des personnages complètement différents.
Oui, mais ils sont ordinaires. Moi, c'est ce que j'aime.
Oui,
c'est pas des super-héros. Ce sont des gens qu'on peut rencontrer et chacun peut se reconnaître dans l'un de ces personnages. Moi, j'aime les gens ordinaires qui vivent des choses extraordinaires. Moi, les super-héros, ça ne m'intéresse pas dans les romans. Et là, voilà, Paul... Alors, qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Paul ?
Paul, il passe son temps en ingénieur informatique.
Oui, il gagne bien sa vie.
Il gagne très bien sa vie.
Il a une aventure, enfin, l'amour de sa vie avec une réfugiée afghane.
C'est ça.
Et c'est une très belle histoire d'amour. Hein,
et c'est un beau mec.
C'est un beau mec.
Et c'est un très beau mec qui a tout pour réussir dans la vie et qui, finalement, a une fêlure cachée qui finit par... véritablement le briser, il finit par s'effondrer parce qu'il est atteint d'un mal qui est en train de disparaître aujourd'hui, c'est l'humanité. C'est quelqu'un qui fait parler son cœur, qui respire avec son cœur.
Il se fait bouffer par les autres un peu.
Oui, avant de respirer avec sa tête. Non, c'est-à-dire que toutes les petites agressions du quotidien, l'individualisme, la montée de l'intolérance, la montée de l'intégrisme religieux, vous venez de l'expliquer, il tombe follement et éperdument amoureux d'une réfugiée afghane. Et cette violence au quotidien, cette violence sociale qui est prégnante aujourd'hui en France, c'est quelque chose qui le dévaste, qui va aussi finir par l'emporter, mais à un moment aussi par le pousser à se révolter.
Et puis à Marco, alors là, hein, fan de foot, hein, Marco c'est fan de foot, alors le supporter ultra du Paris Saint-Denis.
Oui.
Ça ne s'invente pas, et pourtant vous l'avez inventé, le Paris Saint-Denis.
Fred, je l'ai inventé parce que je ne voulais pas me fâcher avec les supporters du Paris Saint-Germain.
Voilà,
c'est quand même un petit clin d'œil.
Oui, je trouve ça très drôle.
Hein, oui, le Paris Saint-Denis qui est devenu le plus grand club d'Île-de-France. Ouais. Et c'est vrai que Marco, alors lui, il n'a aucune ambition dans la vie. Il a des origines italiennes, il travaille dans la pizzeria de son oncle.
Et il vit que pour le foot, en fait.
Et il vit que pour le foot. Ouais. Et ça me permet de faire une petite incursion, un petit clin d'œil au milieu du football, où là on va voir aussi que les liens tribaux, la violence, les excès font partie de leur vie.
Oui, parce qu'il est membre d'un groupe ultra, et moi ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que vous décrivez un monde finalement peu connu du grand public et qui bénéficie d'une certaine complaisance dans les médias sportifs, les ultras. Et là vous aimez le foot, mais comme vous le connaissez bien et comme vous l'aimez, vous dénoncez ces dérives, parce que le fonctionnement du groupe ultra, qui est extrêmement bien expliqué dans votre roman, est insupportable, en fait. C'est peu importe leur idéologie, en fait. Il y a un côté militaire avec un capot, avec une soumission des gens, et vous décrivez ça de manière très crue, très brutale.
Oui, c'est une immersion dans un monde, effectivement, qui est assez méconnu, qui est des fois un petit peu...
Que ses copains, pardonnez-moi, ne connaissent pas. Et un jour, il vient avec un des copains qui est totalement choqué par ce qu'il voit.
Et oui, parce que, comme je disais tout à l'heure, à force de s'habituer à la présence des gens, on finit par oublier leur présence et oublier leur humanité. Et c'est un moment, Marco, c'est ce qu'il explique, qui est le plus effacé des quatre personnages, rappelle quand même aux autres qu'il existe, qu'il a une vie, et qu'il a une vie en dehors du bar Les Copains d'abord, et à laquelle personne ne s'est jamais intéressé.
Alors justement, Marco, on ne va pas révéler le secret, il a un grand secret qu'il cache à ses amis. Mais la question que je me pose, est-ce que l'on est vraiment ami de ses amis quand on leur dissimule un élément essentiel de son existence ?
Fred, est-ce que vos amis vous ont tout dit ?
Et est-ce que j'ai tout dit à mes amis ?
Très
peu. Ouais. Un ou deux. Oui, je me pose la question, vous avez raison de me renvoyer la question. Non, il y a toujours une part, mais là c'est quand même quelque chose de...
De lourd,
mais qui aurait pu s'avouer quand même, qui aurait pu être partagé.
Oui, mais dans ce milieu...
Et qui est découvert par hasard par l'un des
membres. Oui, mais dans ce milieu un petit peu machiste, où tout est un petit peu dans les apparences et dans l'apparat aussi, on n'a pas forcément envie de montrer ses faiblesses. Mmh. On est plutôt là pour essayer de partager sa solitude et essayer de partager aussi des bons moments, parce qu'il y a des vrais moments de réflexion, de pensée et de rigolade.
Alors voilà, ça c'est vraiment important, parce que c'est vrai que je ne voudrais pas que l'on croie que votre roman est noir tout le temps. Non. Il est réaliste sur la vie de ses copains, mais il y a beaucoup, beaucoup de réflexions d'humour. Vous êtes quelqu'un de très drôle dans la vie, et là, franchement, il y a des moments de franche rigolade dans la description que vous faites, dans l'écriture, dans ce qu'arrive à vos personnages, quoi. Donc voilà, c'est un livre grave, on va dire, mais c'est pas un livre triste, c'est pas un livre noir, et c'est un livre qui est vraiment ponctué de nombreux moments d'humour, et ça, c'est important de le préciser. Allez, une petite respiration musicale. Alors, à chaque invité, je demande de choisir une chanson. Vous avez choisi Mylène Farmer, Désenchantée. Alors, pourquoi ce choix, Bernard ?
Ah mais pour trois raisons. La première, c'est que je suis le seul dans mon entourage à aimer Mylène Farmer et son univers, ce qui me vaut d'ailleurs de me rendre assez souvent tout seul à ses concerts. Par exemple, demain soir, je serai au Stade de France et absolument personne parmi mes amis et ma famille ne veut m'accompagner.
Vous le cachez, ça, ou pas ?
Non, je l'assume.
Vous l'assumez.
Mais je me fais quand même beaucoup chambrer. La deuxième raison, c'est que je trouve les paroles de Mylène Farmer dans cette chanson à la fois très belles et très dures. Ça résume un peu l'ambiguïté, l'ambivalence de notre humanité. La troisième raison aussi, c'est qu'on a voulu en faire une récupération politique. Cette chanson a été écrite en 1991. On a dit c'est la génération Mitterrand désenchantée. Alors pas du tout. Mylène Farmer faisait juste état de son état d'esprit,
à elle,
de son vague à l'âme du moment.
Oui, oui,
et ce qui est formidable, c'est quand on arrive à allier musique et mots, on arrive à traverser les frontières, les temps, le temps. Et c'est une chanson qui, 34 ans après, parle toujours aux gens. Comme quoi, j'incite toujours les gens à lire, à écrire et à lire, parce que ça vous offre un moment d'éternité.
Et ça reste. Allez, on va écouter Mylène Farmer, Désenchantée. C'est très bien choisi cette chanson parce que je trouve qu'elle permet aussi de parler du dernier de la bande, Sébastien, qui est le mec pas beau, qui n'était pas baraqué, qui a toujours été protégé par les autres à l'école et qui rêve d'amour mais qui accumule les échecs. Quoi. Donc le désenchanté, le plus désenchanté de la bande, c'est quand même Sébastien.
Oui, c'est terrible, il n'a pas été gâté par la vie et puis la vie ne va cesser de le torturer au fur et à mesure que les années passent. Et c'est celui qui va le plus tenter parmi les quatre de donner un sens à sa vie.
Va même partir en Afrique pour trouver l'amour. Et
ouais,
ça va être compliqué.
Pour trouver l'amour, l'âme sœur. Et malheureusement, à chaque fois qu'il va penser y arriver, il va être ramené très violemment vers sa triste réalité.
Alors, c'est l'occasion aussi pour vous, dans ce livre, à travers ces personnages, et au travers de ces portraits, de parler clairement des maux de notre société, comme la santé mentale, l'islamisme, le communautarisme et la violence.
Oui, et puis des choses aussi qu'on a trop longtemps passées sous souffrance, les souffrances des adolescents, notamment les adolescentes qui souffrent d'anorexie et de boulimie. Et oui, c'est un roman aussi sociétal, j'en ai profité pour glisser un petit peu ma vision sur cette société qui est très difficile.
C'est le moment de passer au questionnaire de Fred. Où écrivez-vous, Bernard ?
Sur un bar, forcément. Chez moi.
Quand écrivez-vous ?
La nuit.
Avez-vous des superstitions au moment de l'écriture ?
Aucune.
Quelle est la plus grande différence entre écrire un article sur un match juste après le coup de sifflet final, avec la pression du bouclage du journal, et écrire un roman ?
L'éternité.
Quel livre vous a le plus marqué quand vous étiez enfant ?
La Cité de la Joie de Dominique Lapierre.
Quel est le livre le plus important de votre vie ?
Le prochain que j'écrirai peut-être, j'espère.
Êtes-vous un adepte de la lecture de plusieurs livres en même temps ?
Non.
Quel livre pourriez-vous recommander à des parents qui veulent donner le goût de la lecture à leurs enfants ? D'ailleurs, vous avez des enfants bas âge ?
Déjà de leur laisser l'occasion de lire, mais de lire ce qu'ils veulent. Peu importe la littérature.
Quel conseil pourriez-vous donner à quelqu'un qui n'arrive plus à lire un roman en entier ?
De commencer par le lire par étapes, par chapitres.
Même si ça prend un long moment, oui.
Oui, de le feuilleter, de le grignoter. Et je pense que les mots finiront par l'accrocher.
Est-ce qu'un livre sur le foot pourrait inciter un fan de foot qui ne lit plus d'ouvrir de nouveau un bouquin ? et par le food arriver à autre chose, comme quelqu'un un livre sur la cuisine pour quelqu'un qui aime la cuisine, etc. Est-ce qu'il faut commencer par ses passions pour retrouver le goût de la littérature ?
Je pense, mais déjà, à peu près 80% des livres qui sont achetés en France sont achetés par les femmes.
Oui, donc beaucoup des romans surtout. Hein.
Ouais. Et donc beaucoup les offrent à leur chéri ou à leur époux ou à leur mari, et donc ça les incite à lire. Donc on peut penser que la prochaine étape, ça sera qu'ils lisent autre chose que des bouquins sur le foot. Mais c'est déjà pas mal de lire des bouquins sur le foot, Fred.
C'est le moment de passer un petit coup de fil. C'est au tour de Jean Noël, auditeur de RMC depuis Saint-Leu-la-Forêt dans le département du Val-d'Oise, de nous recommander lui aussi un roman. Alors vous aussi, hein, vous pouvez demander à participer à ce podcast en m'écrivant directement à mon adresse email frédéric.hermel@rmcsport.fr. Bonjour Jean Noël.
Bonjour Frédéric.
Merci d'être avec nous dans Des Livres RMC, le nouveau podcast littéraire de notre station. Alors quel livre avez-vous choisi pour nous, Jean Noël ?
Eh bien, moi, je vais vous parler du dernier roman de Patrice Jean, paru cet été aux éditions du Cherche Midi, La vie des spectres.
Qu'est-ce qui vous a plu dans ce roman ?
Il y a beaucoup de choses. Je vais d'abord vous raconter l'histoire du livre. Ce roman, c'est l'histoire de Jean Dulac, un quadra proche de la cinquantaine. Les amis de sa femme cherchent en vain à en faire un homme déconstruit. Son fils le méprise pour cause de ringardisme. Jean Dulac, c'est aussi un communiste qui a pris ses distances avec le parti. Il ne se reconnaît plus dans notre époque. Il travaille comme journaliste dans la presse régionale à Nantes et est chargé de dresser le portrait des personnalités de la vie locale. À l'occasion, il se surprend à apprécier la compagnie d'un évêque avec lequel il se met à refaire le monde autour de plusieurs pintes de bière. Bref, Jean Dulac est à contre-courant. Un jour, il se trouve mêlé à une polémique médiatique. C'est le début de la fin pour lui. Il se met à dos son employeur, mais aussi sa femme, son fils. Pas d'autre choix pour Jean Dulac que de partir s'isoler. Là va débuter son dialogue avec un fantôme, celui d'un ami d'enfance décédé dans sa jeunesse. Jean Dulac va ainsi partager la vie des spectres. Et pour répondre à ta question, qu'est-ce qui m'a plu dans ce roman ? C'est tout simplement que ce livre, c'est une satire de notre époque, et Patrice Jean y excelle avec humour pour en dépeindre les travers. Je trouve des similitudes entre le personnage principal du roman avec celui de Sérotonine de Houellebecq, un anti-héros misanthrope au bord de la dépression. Patrice Jean, tel un tonton flingueur, en fait, il pousse peut-être ici le plus loin le curseur de l'humour. Et si je te dois te donner une raison de lire ce livre, c'est que Patrice Jean écrit remarquablement bien.
Eh ben, alors rappelle-nous le nom de ce livre et la maison d'édition, enfin le titre de ce livre et la maison d'édition.
Alors oui, la maison d'édition, c'est Le Cherche Midi, et le titre du livre, c'est La vie des spectres.
Merci beaucoup Jean-Noël, vous aussi pouvez m'écrire pour recommander vos coups de cœur. Merci beaucoup à Jean-Noël, auditeur RMC depuis Saint-Leu-la-Forêt. Alors pour ma part, je voudrais vous recommander le livre d'Azilise Lecor, L'enfant et l'avenir de l'homme, qui vient tout juste de paraître chez Albin Michel. Un magnifique plaidoyer en faveur de la maternité, de l'amour et de la transmission face au mouvement de rejet de l'enfant appelé « No Kids ». L'enfant et l'avenir de l'homme d'Azilise Lecor. Bernard, un petit livre à nous recommander ?
Un auteur surtout, Andrei Kourkov, qui a écrit Le Pingouin, L'Oreille de Kiev, toute une série, j'ai beaucoup aimé son œuvre. C'est un écrivain ukrainien de langue russe qui décrit par l'absurde un monde qui l'est tout autant, c'est le monde soviétique et post-soviétique.
Voilà, c'est déjà fini.
Ah
on
bon
a passé un bon moment, une bonne demi-heure est passée. On se retrouve dans deux semaines pour le prochain épisode. Ce podcast est à écouter et réécouter à toute heure du jour et de la nuit sur rmc.fr et sur l'appli RMC. N'hésitez pas non plus à partager le lien sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Bernard.
Merci à vous Fred pour votre invitation.
À très bientôt. Et on se quitte avec un petit peu de musique d'Astor Piazzolla. Oui, j'adore le tango, mais ça sera comme ça tous les 15 jours. Et allez, quelques vers de Louis Aragon. Rien n'est jamais acquis à l'homme, ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre est celle d'une croix. Et quand il croit serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux.
RMC.